19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Un confinement le week-end dans le Pas-de-Calais et trois nouveaux départements placés en vigilance maximale. Ce sont donc les principales annonces de la soirée.
Le gouvernement qui, plus que jamais, mise sur l'accélération de la campagne de vaccination. D'ici cet été, les deux tiers des plus 18 ans qui le souhaitent devraient avoir reçu l'injection.
Tout le monde doit être sur le pont, dit le Premier ministre, y compris le week-end. Objectif, vacciner 20 millions de personnes d'ici fin mai.
Au sommaire également du journal ce soir, le nouvel appel à l'aide des intermittents.
Un an, tout juste, après la fermeture des lieux culturels.
Nous serons également en Irak, à la veille de l'arrivée du pape François.
Et puis un France-Nouvelle-Zélande de rugby, ça vous fait rêver? Eh bien, à vos marques, les billets sont sur le point d'être mis en vente pour le match d'ouverture du prochain mondial qui aura lieu en France.
La météo, Anissa Haddadi, le froid et la bise pour demain.
Oui, en plus de la baisse des températures, la bise va souffler sur les côtes de la Manche. C'est le vent de nord-est qui se lève et qui va accentuer la sensation de froid. Nous aurons encore quelques nuages et des averses dans le Grand Est. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À qui le tour ? Après Dunkerque et les Alpes-Maritimes, c'est donc le Pas-de-Calais qui devra rester confiné le week-end jusqu'à nouvel ordre.
L'analyse des derniers chiffres me conduit à étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tout les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8h au dimanche 18h.
Voilà, c'est donc la principale
annonce de cette conférence de Jean Castex que vous aviez suivie, Victor Delande. Le Pas-de-Calais est confiné donc du vendredi soir au lundi matin.
Et trois nouveaux départements placés en vigilance renforcée, Victor.
Oui, il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Aisne et de l'Aube qui ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 contaminations pour 100 000 habitants. Dans les 20 départements déjà placés sous surveillance, le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, où l'épidémie a légèrement reculé. Pour ces 23 départements donc placés en vigilance renforcée, et à l'exception du Pas-de-Calais qui connaîtra un confinement le week-end, certaines mesures supplémentaires vont être appliquées. D'abord, l'obligation du port du masque qui sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets seront également invités à interdire ou à limiter l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends, où l'on observe notamment des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation. Et dernière mesure, les manifestations pourront être également interdites par les préfets dans ces territoires.
Le gouvernement qui, plus que jamais, on le disait, mise sur l'accélération de la campagne de vaccination.
Oui, à ce jour, 3,2 millions de personnes ont déjà reçu au moins une injection et 1,8 million d'entre eux ont reçu les deux doses. Si on tient compte des données encourageantes du vaccin AstraZeneca et si on ajoute les livraisons de doses plus importantes dans les prochaines semaines, le gouvernement fait des projections plutôt optimistes. D'ici la mi-avril, 10 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit la totalité des personnes vulnérables aujourd'hui éligibles à la vaccination. D'ici la mi-mai, 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans. Enfin, le Premier ministre Jean Castex a assuré que la France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables face au virus. Une bonne nouvelle qui va permettre au gouvernement d'assouplir les règles et le protocole sanitaire dans les EHPAD.
Merci Victor Delande pour ces précisions. Le Premier ministre qui a par ailleurs annoncé de nouvelles restrictions concernant les commerces.
Et oui, au-delà de 10 000 mètres carrés, on ferme, dit le Premier ministre ce soir, dans les départements à risque et même 5 000 mètres carrés dans le Pas-de-Calais. Carole Ferry, ça concerne quand même pas mal de magasins.
Oui, effectivement, pour vous donner un exemple, cela représente 64 magasins en Île-de-France, hors alimentation donc. Ce sont essentiellement les Castorama, Boulanger, Jardiland, Decathlon. Ça concerne surtout la grande banlieue où il y a les surfaces les plus importantes, mais aussi par exemple le Printemps Nation à Paris Intramuros. Les grands magasins du boulevard Haussmann sont eux déjà fermés. C'est toutefois mieux que ce que craignaient les professionnels puisqu'il était question de fermer les magasins de plus de 5000 m². Et là, ce sont trois fois plus d'enseignes qui auraient dû fermer leurs portes en région parisienne. Une exception, vous l'avez dit, le Pas-de-Calais, là les surfaces de plus de 5000 m² devront bien fermer leurs portes. Et attention, pour toutes ces fermetures, il n'y a pas de distinction essentielle, non essentielle. Seuls les magasins alimentaires peuvent rester ouverts. Pas de dérogation pour le bricolage, l'informatique ou l'alimentation, par exemple, l'alimentation pour animaux, pardon, comme c'était le cas lors du premier confinement.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Dans l'actualité également, ce nouvel appel à l'aide des intermittents.
Ça fait un an, hein, tout juste, que les lieux culturels sont fermés et hormis un court intermède estival, ils n'ont pas rouvert. On rappelle qu'il y a 300 000 intermittents en France. Des aides ont bien été mises en place, mais elles ne suffisent pas, d'où ce nouveau cri du cœur entendu dans les manifestations partout en France. Écoutez Fred, il est éclairagiste.
C'est très long déjà, parce qu'on n'a pas d'activité, on n'a rien. J'ai fait une formation en attendant. L'allongement de nos droits, c'est ce qui est primordial, parce que là, si ça reprend, on ne sait même pas quand ça va reprendre. On n'aura pas le temps de faire le total d'heures qui nous est le minimum pour au moins rentrer dans la case indemnisation. Et puis voir au moins une perspective, savoir quelle date on peut reprendre et sous quelles conditions et compagnie. Parce que là, c'est que des promesses. On nous dit peut-être cet été, ça va jouer, assis, debout. Enfin, on ne sait pas. C'est pas une vie, quoi.
Voilà, Fredo, éclairagiste au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier dans la manifestation parisienne tout à l'heure. Et notez qu'à Paris, justement, le théâtre de l'Odéon est actuellement occupé par des intermittents du spectacle.
Édouard Balladur, relaxé par la Cour de justice de la République, qui le jugeait pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle en 1995, c'est l'affaire Karachi.
L'ancien Premier ministre salue cette décision. En revanche, son ancien ministre de la Défense, François Léotard, est lui condamné à 2 ans de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux. Il dit avoir honte de la justice française et annonce qu'il va se pourvoir en cassation.
Europe 1, Julien Bugier.
19h06, dans quelques secondes, le pape François qui arrive en Irak. Demain, l'envoyé spécial d'Europe 1 est déjà sur place.
Et puis les amateurs de rugby dans les starting blocks.
19h07, la suite du journal. C'est donc un voyage historique. Le pape François arrive demain en Irak, dans un pays meurtri par des décennies de guerre.
Un voyage auquel il n'a pas voulu renoncer, malgré la situation sanitaire et les contraintes sécuritaires. Hier encore, des roquettes se sont abattues sur une base militaire. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Vous vous trouvez à Erbil, ville du Kurdistan irakien, qui sera la 3e étape du pape. Et vous allez suivre donc cette visite au programme assez dense.
Oui, dense parce que le pape enverra à la fois un message religieux mais aussi politique et populaire. C'est d'ailleurs avec les autorités irakiennes qu'il commence sa visite à Bagdad demain, où il va se poser aux alentours de midi. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il verra les représentants syriaques catholiques dans la cathédrale de Bagdad. Comité restreint à cause du coronavirus, une quarantaine de personnes seulement. Restreint aussi pour des raisons de sécurité. Le pays a connu de nombreux tirs de roquettes ces dernières semaines contre des intérêts étrangers, mais le pape François ne semble pas s'en inquiéter.
Chers frères et sœurs en Irak, salam alaikum. Je viens comme un pèlerin de paix en recherche de fraternité, animé par le désir de prier ensemble. Musulmans, juifs, chrétiens, en ces temps difficiles de pandémie, aidons-nous les uns les autres à renforcer la fraternité.
Choukran, merci. En arabe, c'est clair, il entend parler à tout le monde, faire en sorte que les communautés catholiques, orthodoxes, musulmanes puissent de nouveau cohabiter. Ici, les atrocités commises par Daesh à l'encontre des chrétiens sont encore très présentes dans les esprits, alors en signe d'unité, et ce sera un des temps forts de sa visite, il doit rencontrer samedi l'ayatollah Sistani, plus haute autorité musulmane chiite. Ce sera avant l'événement populaire de dimanche, une grande messe célébrée dans le stade d'Erbil.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, qui nous fera vivre donc cette visite du pape François.
En Birmanie, cette nouvelle manifestation aujourd'hui, malgré la répression meurtrière qui a fait au moins 38 morts hier lors de rassemblements pro-démocratie dans tout le pays.
L'armée doit cesser d'assassiner et d'emprisonner les manifestants, exige aujourd'hui l'ONU.
Des nouvelles du prince Philippe.
Oui, l'époux de la reine Elisabeth, qui avait été hospitalisé, vous le savez, a subi avec succès une opération du cœur. Il fêtera son 100e anniversaire au mois de juin.
On parlait tout à l'heure des intermittents du spectacle. Chez nous en France, privés de scène, les sportifs, eux, sont privés de spectateurs depuis un moment.
Et c'est vrai qu'on a tous envie de retourner dans les stades, mais c'est un peu difficile de se projeter en ce moment. Et bien voilà, une info qui va vous y aider. Simon Rubin, dans quelques jours, on pourra acheter des billets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby qui aura lieu, on le rappelle, en France en 2023.
Oui, et d'ailleurs, le site de la billetterie en ligne indique déjà faire face à une forte affluence. Alors, je vous explique, le grand public pourra acheter à partir du 6 avril les places, mais si vous vous inscrivez dès maintenant sur le site du Mondial 2023, vous pourrez acheter vos places dès le 15 mars. Et pas besoin d'être licencié dans un club de rugby, il faut juste s'inscrire en ligne. Alors, les premières places en vente correspondront à ce qu'on appelle des packs, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs matchs, soit en fonction de l'équipe qu'on veut suivre, soit en fonction fonction de la ville où on veut voir ses rencontres. Exemple, vous pouvez acheter un pack de 3 matchs à Lille pour 70 euros ou bien suivre les 4 matchs de poule de l'équipe de France. Et ça, c'est à partir de 260 euros les 4 rencontres. Alors au total, 2,6 millions de billets seront disponibles à la vente sur l'ensemble de la compétition. Et on rappelle le calendrier, premier match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande en ouverture au Stade de France. Les Bleus qui joueront ensuite à Lille, Marseille et Lyon.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, rendez-vous donc pour ce mondial de rugby en France à partir du 8 septembre 2023, Julien. Les amateurs de sport automobile, eux aussi, vont être patients, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, les 24 heures du Mans sont reportées. La célèbre épreuve d'endurance qui était programmée les 12 et 13 juin se déroulera finalement les 21 et 22 août. Les organisateurs préfèrent mettre toutes les chances de leur côté plutôt que d'organiser pour la seconde année consécutive des 24 heures sans spectateurs.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. On vous retrouve demain aux commandes du 18-20. Très belle soirée à vous. Dans quelques secondes, le pass sanitaire en débat. On vous dira tout et on répondra à vos questions. Un coup d'œil à la météo d'abord avec Anissa Dadi qui nous a retrouvés. Malgré le froid, le soleil brille à nouveau.
Oui, c'est ce qu'on va retenir pour demain parce que nous, on aime retenir que les bonnes nouvelles. Alors sachez que dans l'après-midi, sur une grande partie du pays, le ciel sera dégagé avec de beaux rayons de soleil. Bon, il ne sera pas assez fort pour faire grimper les températures. Dans la matinée, soyez prudents dans le sud-ouest et le golfe du Lion où là, nous aurons quelques bandes brouillard en plaine. Et puis dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, le ciel reste très nuageux. Nous aurons même de la neige qui tombe sur les sommets entre l'Alsace et les Alpes du Nord à partir de 800 mètres d'altitude. Il n'y a vraiment que sur le Grand Est où le temps est mauvais demain. Ailleurs, c'est lumineux. La sensation de froid, en revanche, elle est accentuée demain. Grâce à la bise, le vent de nord-est qui souffle sur la moitié nord, demain sur les côtes de la Manche. Du coup, les températures sont fraîches, moins 1 à 8 degrés le matin. Et puis l'après-midi, ça baisse encore, surtout dans le sud, avec 6 degrés à Belfort, 8 à Paris, 11 à Limoges, 13 à Lyon, 14 à Nice. Et la maximale pour la cité phocéenne, 17 degrés à Marseille demain.
Merci ma chère Anissa. À demain.
Bonne soirée.
Dans le 18-20.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.